présenté par Eve Barta.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Ce soir, on parle du film La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Mais avant tout, je vous présente Anthony. Bonjour Anthony, qui sera avec nous pendant plusieurs semaines, qui est en stage à la radio. Et donc ce soir, pour sa première, il reçoit Amandine Chélicalip, médiatrice culturelle à l'université du Mans, évidemment, et Shane Valli, membre de l'ATOUM, pour parler de Eve, la scène universitaire, des rencontres théâtre à l'université notamment. Bonsoir.
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 Avant tout, on écoute You Need a Break de Dieter.
Ah là là là. You learn nothing of your despair. Scared of being forgotten. Nothing to lose, nothing to prove. Still, that word doesn't need you. Meritocracy is a myth.
Meritocracy is a myth.
Something you're excited to pledge. You talk too much but still ignore. Silence is a cure.
You need a break. You've been damaged, unusable. You've been damaged. No one needs you anymore. It's a burnout. You've been burned out. Nothing of your despair. You were so high. And your life is empty.
Aujourd'hui, on se retrouve dans l'Amphi pour une interview sur les activités culturelles au Mans. Nous sommes avec Amandine Chélicalip, qui est la médiatrice culturelle et chargée de la vie associative de Le Mans Université. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Et nous sommes avec Shane Valli, une représentante de l'ATOUM, atelier théâtre de l'Université du Mans. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, Shane, est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est l'ATOUM et votre rôle dans l'organisation ?
Alors, l'ATOUM, c'est l'atelier de théâtre de l'Université du Mans. Donc, en fait, on est une troupe amateur qui réunit à la fois des étudiants, mais aussi des extérieurs et du personnel de l'université. Donc, voilà, c'est un vrai mélange. Et donc, chaque année, on engage un metteur en scène pour nous mettre en scène, justement, pour faire un spectacle, monter une pièce qu'il choisit généralement et que nous représentons en fin d'année, en avril, souvent à Eve, scène universitaire.
Très bien. Amandine, à votre tour, est-ce que vous pouvez nous définir Eve, scène universitaire, et votre rôle dans cette dernière?
Alors, scène universitaire, c'est l'endroit, on va dire, du service culture de l'université. Et en son sein, il y a notamment une salle de spectacle, donc Eve, qui est ouverte à tous les publics, même si elle est sur le campus et que les étudiants y sont évidemment super bienvenus. Mais ça reste une scène ouverte à tous, à tous les publics. Au service culture, on propose aussi des ateliers artistiques très variés pour les étudiants. Et puis, on a aussi cette mission d'accompagner les associations qui en ont envie, qui veulent jouer avec nous ou qui ont besoin d'un petit coup de pouce à un moment donné. Et du coup, travailler avec la TOUM, c'est un peu le mélange de nos deux casquettes, parce que c'est à la fois une association, mais une association artistique. Et du coup, on peut encore plus jouer avec eux, peut-être qu'avec d'autres.
Donc la TOUM est une association qui propose différents ateliers sur le théâtre. Mais pourquoi vous êtes spécialement dans le théâtre et pas une autre activité ?
Eh bien, tout simplement parce que c'est une activité qui rassemble. Et puis, c'est quelque chose qui nous parle, tout simplement.
C'est-à-dire qui vous parle ?
Il y avait un désir, en fait, de se retrouver pour monter des textes ensemble. C'est une vraie activité de groupe qui permet... Excusez-moi.
Qui permet de créer une cohésion de...
Oui, c'est ça.
Oui, très bien. Dans cette troupe de théâtre, combien faites-vous de répétitions par mois ?
Alors, cette année, nous répétons un week-end par mois. Donc, en tout, nous avons répété 7 week-ends dans l'année. Et on se retrouve parfois quelques lundis en plus pour pouvoir répéter davantage.
Et donc, l'objectif à travers ces répétitions, c'est créer donc ce lien ou le côté on répète pour être prêt pour le jour J.
Alors, c'est avant tout pour se préparer pour le spectacle, mais oui, forcément, ça crée du lien, ça permet de développer un vrai esprit de troupe. C'est important pour nous, voilà, effectivement, de pouvoir créer un véritable groupe cohérent. Ça permet à la fois de faire des spectacles, on pense, de meilleure qualité, parce qu'on ressent ensemble qu'on s'amuse sur scène.
C'est le plus important, s'amuser.
Voilà.
Donc la troupe de théâtre répète, comme avait dit, un week-end par mois. Et c'est donc à Eve, scène universitaire. Pourquoi dans ce lieu ?
Eh bien, tout simplement parce que... alors d'abord, c'est une très belle salle de spectacle. Le service culture est d'une grande aide parce qu'il nous offre la possibilité d'y répéter à titre gracieux, ce qui n'est pas forcément possible dans toutes les salles. Encore une fois, ça reste une association de l'université. Donc, ça faisait sens aussi de pouvoir répéter au sein de l'université. Et encore une fois, on accueille des étudiants comme comédiens en notre sein. Donc, c'était aussi une possibilité pour eux de pouvoir faire d'autres activités en plus sur le campus.
Et comme nous l'a dit Amandine, le fait d'avoir aussi les mêmes valeurs entre associations, ça aide aussi à travailler ensemble.
Oui, bien sûr.
Donc, dans Eve Scène Universitaire, elle est utilisée par le service culture de Le Mans Université afin de proposer des ateliers pour découvrir ou poursuivre une pratique culturelle. Quels sont ces différents ateliers proposés ?
Alors, les ateliers ne sont pas, je fais une petite correction mini, ils ne sont pas proposés à Eve même, sauf l'atelier théâtre qu'on propose, qui est autre chose que la TOUM, mais sur différents endroits du campus, et ils sont extrêmement variés. Donc, on a du théâtre qui est plus du théâtre à titre de débutant. Il y a une présentation à la fin, mais qui n'est pas un spectacle abouti comme celui de la Toum. On a plusieurs ateliers en musique, certains ouverts aux débutants, comme un atelier Chant du Monde à Capella, par exemple. D'autres ouverts à des gens qui ont déjà une pratique, comme nos ateliers de musique actuelle. À chaque fois, ce sont des exemples. Hein. Je ne vais pas être exhaustive. Et on a des choses qui peuvent... Alors, on a de l'art plastique, de la photographie, mais on a aussi des ateliers qui peuvent paraître plus originaux, en tout cas pas forcément venir aux pensées des personnes qui pensent service culture, tels que notre atelier couture, ou encore notre atelier jeux vidéo et cinéma, qu'on propose tout au long de l'année. On a des pratiques notées, en option, on va dire, et puis des pratiques totalement libres en atelier loisir.
Avec autant d'ateliers variés et différents, comment l'université fait-elle pour s'organiser avec tout ça ?
Eh bien déjà, ma collègue Mélanie œuvre à ce sujet. J'ai vraiment une collègue dont l'une des missions est de planifier, de s'occuper des ateliers, même si on est une équipe, on est une petite équipe, en plus on n'est que trois, donc on travaille tout ensemble évidemment, mais Mélanie, ça fait vraiment partie de ses missions. Et ensuite, bah, évidemment, c'est pas nous qui donnons les cours. Et nos intervenants ne sont pas des intervenants, ce ne sont pas des profs de la fac, ce sont des artistes qui viennent... donner de leur savoir aux étudiants, et on fait aussi avec eux cette organisation. Parfois le plus dur, c'est de trouver la bonne salle, la salle adaptée. Par exemple, pour notre atelier jeux vidéo, fallait une salle avec des ordinateurs, et nous on n'en a pas à Eve, et donc voilà, là faut chercher un peu quelle salle est disponible, mais après tout se passe plutôt bien, je pense.
Et tous ces ateliers, ils ont été choisis directement, ou ça s'est fait petit à petit?
Petit à petit, et puis ça évolue, ça change, certains ateliers s'arrêtent, certains ateliers sont remplacés par d'autres, parfois par le même enseignant qui fait évoluer sa pratique au fur et à mesure des années. On a quand même des enseignants qui sont là depuis même avant la création de Eve, hein, qui sont sur l'université depuis bien avant nous, finalement. Nous, on a dans notre service, tous les ans, des services civiques qu'on lâche des étudiants à peu près. Chan le sait bien, et moi aussi d'ailleurs, mais parce que nous en avons toutes deux été à une époque. Et puis on échange avec les étudiants, on regarde aussi ce qui se fait ailleurs, et c'est aussi comme ça qu'évolue notre proposition. L'année prochaine, on espère proposer au moins trois nouveaux ateliers. Pour l'instant, c'est encore en discussion, on cherche encore les bons intervenants, mais on essaie de faire évoluer l'offre aussi en fonction des intérêts des étudiants, du moins de ce qu'on en comprend.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les ateliers d'unité d'enseignement d'ouverture ?
Voilà, c'est ce que j'ai appelé. Pardon. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les ateliers notés. Je n'avais pas donné le terme parce que je me disais que les gens n'allaient pas comprendre, mais c'est une très bonne question. Les UEO, comme on les appelle entre nous, sont des pratiques optionnelles obligatoires pour tous les étudiants en L2 ou L3 suivant la filière. Mais en clair, ils doivent choisir une option parmi tout un panel. Il n'y a pas que de la culture, il peut y avoir du sport, voire de la solidarité, enfin il y a plein de choses différentes. Mais ils doivent en choisir une, de préférence une qui n'a rien à voir avec leur formation initiale. Et l'idée, c'est de développer ses compétences transversales, d'ouvrir sa curiosité, et de rencontrer d'autres étudiants également, et d'autres pratiques, parce que du coup, on est mélangé dans ces options avec des étudiants de toutes filières, potentiellement.
Et tous ces ateliers, c'est une vraie opportunité pour les étudiants, mais est-ce que ce n'est qu'une opportunité pour les étudiants de Le Mans Université ?
Eh bien, nos ateliers, sauf ceux qui sont en pratique notée, évidemment, mais nos ateliers sont toujours ouverts aux extérieurs, tout comme notre salle. La seule différence, c'est qu'on a une première vague d'inscription et les étudiants sont toujours prioritaires. Si l'atelier est complet avec des étudiants, ce sont toujours les étudiants qui sont prioritaires. Après, par contre, s'il reste de la place, chacun est le bienvenu. Et il y a des ateliers pour lesquels c'est très flagrant qu'il y a un mélange, et puis pour d'autres où c'est pris d'assaut direct par les étudiants. Et voilà.
Depuis 2014, les rencontres de théâtre universitaire, RTU, sont organisées à Eve Scène Universitaire. Pouvez-vous nous présenter cet événement ?
Chan, tu veux commencer ou tu veux que je commence ? Dis-moi.
Alors, les RTU, donc les rencontres de théâtre à l'université, c'est un festival organisé par l'ATOUM et le service culture qui offre la possibilité de rencontrer des troupes étudiantes d'autres universités. Donc nous rejouons notre spectacle, bien entendu, mais nous invitons également d'autres troupes à présenter leurs créations. Donc cette année, nous avons Paris qui vient présenter son spectacle IA 2054, je vais y arriver, et Tours qui vient présenter son spectacle Nord-Sud-Ouest-Ouest. Cette année, nous avons également une marraine, Nettie Navarro, qui est auteure et qui va également apporter un regard d'auteur contemporain et nous accompagner sur ce festival.
Nettie Navarro qui sera là aussi en coulisses pour proposer des ateliers aux participants au festival. Donc vous allez vivre une expérience, les troupes, il va y avoir 3 ateliers si je m'abuse, enfin, peu importe le nombre, mais les troupes vont être mélangées pendant ces ateliers donc, et vont pouvoir se rencontrer et pratiquer ensemble. Donc c'est aussi ça et beaucoup ça ce festival, c'est des rencontres entre des étudiants qui ont la même passion. Qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas forcément la même façon de fonctionner. La Toum est une association, c'est le cas aussi de la troupe qui vient de Paris. Mais par exemple, la troupe qui vient de Tours, c'est un atelier du service culture de Tours. Et c'est aussi ça, les rencontres de théâtre à l'université. Alors, je dis que c'est des rencontres entre étudiants, mais évidemment, les spectacles sont ouverts à tous les publics. Et vous êtes les bienvenus pour partager ces moments avec nous.
Il aura lieu donc du 22 au 24 mai 2026. Pourquoi vous avez choisi cette période ?
C'est une très bonne question. C'est un jeu de calendrier. C'est un jeu de entre notre programmation, nos contraintes à nous, les programmations de la Toum, des étudiants. Il faut que la Toum ait déjà joué, parce qu'il faut qu'ils aient fait leur spectacle.
Les troupes extérieures aussi.
Voilà, c'est ça. Il faut que la Toum ait le temps de se remettre de son spectacle pour pouvoir faire la communication, etc. On ne peut pas leur dire le lendemain du spectacle, hop, vous allez tracter maintenant pour les RTU. Enfin, ça s'est un peu fait parfois, mais on s'est rendu compte que c'était quand on peut éviter, c'est pas mal. Et oui, on fait assez tard dans l'année pour être sûr que toutes les troupes qui postulent aient déjà joué, aient déjà leur spectacle monté. Et puis après, ouais, c'est un jeu de calendrier. Par exemple, nous, il y a 2 semaines à l'université, c'était le forum le jour en question. Donc, c'était pris pour un autre truc. Et après, on évite les... Là, on a quand même le lundi pour s'en mettre, c'est pas mal. Mais on évite aussi, par exemple, la semaine dernière, avec le pont, l'aqueduc qu'on a eu pour avoir du public, pour avoir des étudiants qui partent pas potentiellement en week-end, etc. C'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est vraiment un puzzle. Il faut qu'à la fois, nous, Service Culture, on ait une place disponible assez grande et puis que la Toum soit dispo dans tous les sens du terme. C'est-à-dire aussi reposer un peu de ses représentations, et c'est bien normal. Et qu'on ait le temps de gérer entre les deux tous les aspects techniques d'organisation.
Au fil des années, est-ce que vous avez remarqué une participation grandissante des étudiants ?
Au RTU, le nombre de candidatures, c'est ça ? Pas forcément, c'est fluctuant, je dirais. Chane, tu me...
Non, ouais, c'est vrai que ça dépend vraiment d'année en année. À la fois par le calendrier, parce qu'il y a des fois où c'est un peu plus tôt en mai, il y a des fois où c'est un peu plus tard. Et puis après, encore une fois, les promotions se suivent et ne se ressemblent pas. Donc, ça dépend. Je pense que c'est assez difficile d'établir vraiment un effectif type pour ce festival-là.
On a toujours assez de candidatures pour le maintenir, par contre.
Et justement, parlons des inscriptions. Quand est-ce qu'elles vont recommencer ces inscriptions ? Ce sera pour 2027 ?
Là, je laisse peut-être...
Oui, on espère reconduire le festival l'année prochaine. Généralement, on lance notre appel à projet en fin d'année, d'année civile, donc vers novembre, décembre. Nos inscriptions sont ouvertes souvent jusqu'en février à peu près. Le temps d'obtenir des inscriptions, que les troupes puissent se projeter aussi, voir si elles pensent pouvoir se déplacer, parce que ça aussi, ça peut être un challenge un petit peu. On a des troupes qui étaient venues, une troupe qui était venue de Dijon une fois, donc c'est très chouette. C'est vrai qu'on ouvre un petit peu en plus à toute la France, donc. C'est toujours intéressant de voir qui postule et quel projet on va pouvoir accueillir au sein du festival.
Justement, est-ce que vous aurez un message à apporter aux étudiants pour les inciter à s'inscrire ?
Pour le festival ou pour la Toum de manière...
Pour le festival.
Bah, encore une fois, on fait plus appel aux troupes à l'extérieur. C'est une très belle expérience et c'est vraiment l'occasion de faire des rencontres et de partager des pratiques théâtrales, de découvrir les spectacles des autres et de montrer son propre travail. D'être fier de ce qui a été accompli à la fois par nous et par les autres.
Puis il y a eu des petits cas un peu chouettes d'un étudiant une année qui était étudiant à l'Université du Mans, qui avait vu les RTU en spectateur et qui après s'est inscrit à Paris, je crois, mais pas le même, et qui s'est inscrit dans une asso de théâtre et qui nous avait appelé en mode du coup maintenant je fais partie d'une asso de théâtre extérieur, est-ce que je peux postuler. Il était revenu jouer finalement au Mans, donc ça c'était très rigolo. Donc n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas sur les planches cette année, peut-être que l'année prochaine ou l'année d'après, vous serez les bienvenus.
Merci beaucoup en tout cas Amandine et Chan d'être venus à l'émission. Si Rencontre de théâtre à l'université vous intéresse, elle aura lieu donc, comme on l'a dit précédemment, à Eve, scène universitaire du 22 au 24 mai. Pour plus de renseignements, allez sur le site internet de Eve, scène universitaire, à l'adresse en minuscule eve.univ-lemans.fr.
Merci beaucoup Anthony, merci Amandine et merci Chan. Donc évidemment, comme on l'a dit juste avant, les RTU ont lieu du 22 au 24 mai à l'université. On va faire une pause musicale, on va écouter 4 out of 5 d'Arctic Monkeys.
Way. Start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old grey whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. All getting gentrified. I put a tapperier on the roof. It was well reviewed. 4 stars out of 5. And that's unheard of. I missed a bridge and turned. I'm a Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okie cokie with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice, I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. It's the place to go, and you will not recognize the old headquarters. All the nights that never happened, and the days that don't exist, at the information action ratio. Only time that we stop laughing is to breathe or steal a kiss. I can get you on the list for all the clubs. I can lift you up another semitone. Take it easy for a little while.
Sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. On a écouté Someone Like You de Blue Monday. En ce moment, tous les regards du cinéma sont tournés vers la Croisette. Comme chaque année, le Festival de Cannes célèbre les grands films, ceux qui impressionnent, ceux qui dérangent aussi. Et parmi les œuvres qui ont marqué ces dernières années, il y en a une qui continue de hanter longtemps après la projection, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Présenté à Cannes en 2023, le film a remporté le Grand Prix. Mais surtout, il a provoqué quelque chose de rare, un silence. Pas un silence vide, mais un silence lourd, presque physique. Parce que La Zone d'intérêt n'est pas un film sur l'horreur au sens classique, c'est un film sur la proximité de l'horreur, sur la manière dont on peut vivre juste à côté et continuer malgré tout. Le point de départ est glaçant par sa simplicité. Le film suit la famille de Rudolf Huss, commandant du camp d'Auschwitz, qui vit dans une magnifique maison avec jardin, fleurs, piscine, enfants qui jouent juste derrière le mur du camp. Et c'est précisément ça qui rend le film assez insoutenable. L'horreur n'est jamais presque montrée. Elle est hors du camp, on ne voit quasiment rien des crimes, mais on les entend constamment. Des coups de feu, des cris lointains, le bruit des fours, tout est là dans le son. Et c'est là que Jonathan Glazer réalise quelque chose d'assez extraordinaire. Il refuse les images spectaculaires, il refuse la reconstitution émotionnelle habituelle. À aucun moment il ne cherche à faire pleurer. Au contraire, il filme la banalité du quotidien avec une froideur clinique. La mère choisit des rideaux, les enfants jouent au bord de l'eau, le père parle de son travail comme un simple fonctionnaire, et pendant ce temps, derrière le mur, des milliers de personnes meurent. Le film pose alors une question profondément dérangeante, comment peut-on s'habituer à l'horreur ? Et cette question dépasse largement le contexte historique. Bien sûr, La Zone d'intérêt parle de la Shoah, et le film rappelle avec force la mécanique monstrueuse du système nazi. Mais Glazer parle aussi de notre époque, de notre capacité à détourner le regard, à vivre confortablement pendant que des tragédies se déroulent ailleurs. C'est peut-être pour ça que le film marque autant aujourd'hui, parce qu'il ne nous laisse jamais dans une position confortable de spectateur moral. On ne peut pas simplement se dire « eux étaient monstrueux, nous sommes différents ». Le film suggère quelque chose de plus inquiétant. Le mal peut devenir une routine, une habitude, une organisation quotidienne. Visuellement, le film est d'une maîtrise incroyable. Jonathan Glazer utilise souvent des plans fixes, très composés, presque froids. On a parfois l'impression de regarder une maison témoin, une publicité pour une vie parfaite. Et pourtant, chaque image est contaminée par ce qu'on sait. Le jardin devient insupportable, les fleurs deviennent obscènes, et même la lumière du soleil semble fausse. Il faut aussi parler du travail sonore, probablement l'un des plus impressionnants du cinéma récent. Le son agit comme un fantôme permanent, on entend le quand sans le voir, et finalement l'imagination devient plus terrible que n'importe quelle image explicite. C'est un choix radical mais extrêmement puissant. Les acteurs sont eux aussi remarquables. Sandra Hüller, qu'on avait déjà vue dans Anatomie d'une chute, joue la femme de Huss avec une forme de normalité terrifiante. Elle ne joue pas une méchante caricaturale, elle joue quelqu'un qui veut simplement préserver son confort, sa maison, son quotidien. C'est justement ce qui glace le sang. Le film rappelle alors une idée essentielle, les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Ils peuvent avoir un visage banal, une famille, des habitudes, une vie rangée. Ce qui est fascinant, c'est que La Zone d'intérêt est un film extrêmement contrôlé, presque froid, mais qui produit une émotion intense. Pas une émotion spectaculaire, une émotion lente qui s'installe après le film. Une sorte de malaise durable. C'est probablement là qu'on reconnaît les grands films. Ils ne se contentent pas d'être vus, ils changent notre manière de regarder. Dans un festival comme Cannes, où les films cherchent souvent à impressionner, Jonathan Glazer fait exactement l'inverse. Il retire, il efface, il montre moins pour faire sentir plus. Et le résultat est bouleversant. Alors évidemment, La Zone d'intérêt n'est pas un film agréable, ce n'est pas un divertissement, c'est une expérience difficile, mais c'est aussi une œuvre essentielle. Parce qu'elle nous rappelle que le cinéma peut encore interroger profondément notre rapport au monde, à la mémoire et à notre propre indifférence. Et au fond, le vrai choc du film est peut-être là. Comprendre que le pire n'est pas seulement la violence. Le pire, c'est quand cette violence devient normale pour ceux qui vivent à côté. Voilà pourquoi, plusieurs années après sa présentation à Cannes, La Zone d'intérêt continue d'être l'un des films les plus importants et les plus troublants du cinéma contemporain. Je vous propose de poursuivre avec un titre de Björk, Dull Flame of Desires, remixé par Model Selector, qui s'intitule Remix for Girls. We'll be right back.
Suddenly you raise them so to cast a swift embracing glance
like lightning flashing in the sky, but there's a charm that is greater still.
When my love's eyes are low, when all is fire by passion's kiss,
and through the downcast lashes I see the dull flame of desire,
and through the downcast lashes I see the dull flame of desire.
Déjà la fin de cette émission, on vient d'écouter Dance de Slater. Vous pourrez bien entendu réécouter cette émission en rediffusion demain de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.
Présenté par E.